Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non?
N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Ok, que nous dit WikiHow sur comment gérer ses émotions? Ok, WikiHow, comment gérer ses émotions? Rappelons que ceci n'est pas une source scientifique. Les émotions, nous dit la personne, sont des réactions mentales qui peuvent avoir certains effets physiques et indiquent ce que l'on ressent. Elles sont parfois assez intenses et poussent les personnes à entrer dans des mécanismes compensatoires, comme regarder la télévision, faire du shopping de façon compulsive ou se plonger dans les jeux d'argent. Si rien n'est fait pour lutter contre ces habitudes, elles peuvent mener à des situations difficiles d'addiction, de dette ou même des problèmes de santé. Ces conséquences peuvent amplifier les émotions et faire entrer dans un cercle vicieux une personne fragilisée. Heureusement, avec un peu d'effort, vous apprendrez à maîtriser certaines émotions afin d'améliorer votre qualité de vie en vous informant et en appliquant des méthodes adéquates. Partie 1, saisir ses émotions avec une très belle illustration qui nous indique « Attention, danger !» Comprenez que vos émotions sont les reflets de votre monde intérieur. Elles résultent de votre façon de voir le monde. Les émotions positives sont celles qui se produisent alors que vous vous sentez bien, tandis que les négatives sont celles qui se produisent quand vous vous sentez mal et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il est normal d'avoir des émotions positives et négatives et chaque individu en éprouve, vous devez les accepter et les laisser ressortir si vous voulez être capable de les maîtriser. Bon, c'est pas que la merde en vrai, c'est pas mal hein, de ce qu'on disait quoi. Nos émotions nous servent et nous aident souvent à identifier nos besoins. Par exemple, le sentiment de peur est un signal que notre corps nous envoie pour nous mettre en alerte face à un danger. C'est cette émotion qui a permis à nos ancêtres de survivre dans un monde sauvage et hostile. Si vous reconnaissez que vos émotions sont utiles, même lorsqu'elles sont désagréables, vous aurez plus de facilité à les gérer. Et là, on est tous et toutes dans ce que j'appellerais le « I am in this picture and I don't like it » parce que cette petite phrase « Vos émotions sont utiles même lorsqu'elles sont désagréables », bon, je pense qu'on est beaucoup à faire. Oui, ça va, hein, WikiHow, qui t'a demandé? Mais c'est en effet un apprentissage tardif et précieux de mon propre chemin de la gestion des émotions, on en a déjà un peu parlé. Comme je n'ai pas été éduquée à gérer mes émotions, ma seule façon de gérer les négatives, c'était de juste les foutre sous le tapis. Et je n'avais pas d'outlet pour les lâcher, que ce soit la tristesse, la peur, la colère, etc. Et j'avais cette vraie idée de « il faut juste attendre et elles vont passer, mais il ne faut rien en faire et il ne faut pas se plonger dans ces émotions parce qu'en plus, après, il y a le risque de la spirale, etc. » Mais non, je ne pense pas que c'est la solution. Et je pense que, effectivement... Même la tristesse, même la colère, même la peur, l'idée n'est pas de dire cette émotion est nulle ou je ne devrais pas ressentir cette émotion, mais de dire ok, je ressens cette émotion, c'est un signal, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que si je suis en, par exemple, disons, j'essaie de trouver un exemple, je vais prendre un exemple qui ne me concerne pas trop du coup, mais disons, demain, mon mec voit une amie en tête-à-tête et ça me provoque de la colère. Moi, avec mes valeurs actuelles, j'aurais tendance à dire que cette colère n'est pas justifiée. Il a le droit de voir une femme en tête-à-tête, bien sûr. Mais n'empêche que si je ressens de la colère, eh ben, ça, je peux me dire bah, « c'est nul de ressentir ça et c'est débile et du coup je vais la mettre sous le tapis » ou je peux essayer de réfléchir à « ok, d'où elle vient cette colère ? Elle vient sûrement d'une peur. Quelle peur ? Celle de perdre mon compagnon, celle d'être délaissée, celle de ne pas lui suffire. Du coup, bah, qu'est-ce que je peux en faire ? Je peux travailler sur mon estime de moi et ma confiance en moi et communiquer avec mon compagnon sur les besoins que j'ai, de quelle façon j'ai besoin d'être rassurée et sur quoi. Peut-être que ça vient de « tiens, en ce moment, il ne me valorise pas trop, donc si j'ai plus de compliments, bah, je suis plus sereine sur le fait qu'il est avec moi et je sais pourquoi ». Voilà, ça peut être des petites choses toutes simples, mais qui ne se passeront pas si je me dis juste Ah, je devrais pas être en colère. Et après, ça n'existe plus par magie, car ça ne marche pas. Ça continue à exister, c'est réel. Donc écoutez, WikiHow ou pas, ce premier conseil n'est pas dégueulasse. Il faut d'abord identifier ses émotions, bien sûr. Toutes ces émotions, même celles qui ne sont pas jolies, jolies. Et c'est vrai, Proton Livre dit « Le monde d'aujourd'hui aussi est sauvage et hostile ». Mais je pense que c'est pas tant la peur qui nous a permis de survivre, c'est l'entraide, en vrai. Je pense que ce qui caractérise l'humanité, c'est pas la peur, parce que tous les êtres vivants, enfin beaucoup d'êtres vivants ont peur, c'est l'entraide et comment dire ça. Et je sais que il y a des signes très 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 tôt dans l'histoire de l'humanité et même de nos ancêtres, ils ont retrouvé des traces d'êtres humains qui avaient été enterrés avec où les os indiquent qu'ils ont eu une jambe cassée qui a été réparée avec les moyens du bord. Donc là où dans le règne animal, un animal blessé, c'est souvent un animal qu'on abandonne parce qu'il va pas survivre. Un animal blessé dans le monde humain, c'était quelqu'un dont très tôt les humains ont décidé de s'occuper et de pérenniser sa vie, quoi. Voilà, je pense que c'est ça qui marque l'humanité, pas la peur. Mais bon, on en parlera dans un autre live sur l'anthropologie, quoi. Mince, nous dit Jimmy le mouton, mais WikiHow vient de donner un exemple de mes stratégies d'évitement d'émotions. Est-ce que c'était faire du shopping compulsif, des jeux d'argent ou regarder la télévision pendant des heures? J'espère qu'il n'y a pas les jeux d'argent, parce qu'en vrai, je suis plutôt en mode... Non, ça, c'est vraiment dangereux. Genre, c'est plus dangereux que de regarder la télé pendant des heures, je pense. On risque moins de perdre toute sa thune, quoi. J'ai une question très importante. Ton anxiété t'a-t-elle déjà donné des douleurs physiques, genre mal aux yeux, dos, thorax ou ventre? Bah écoute, je pense qu'en vrai, mes brûlures d'estomac... Donc j'ai eu pendant un an des brûlures d'estomac très vénères qui m'ont mené à perdre 15 kilos. J'en ai fait un live il y a un an sur ma chaîne et vous pouvez aussi le retrouver en podcast. Et ces brûlures d'estomac, ce sont... Donc pendant un an, j'ai suivi... J'ai vu différents médecins, j'ai essayé différents traitements, j'ai fait différents examens pour comprendre ce qui se passait. J'ai été jusqu'à faire une échographie, aller à l'hôpital, voir s'il fallait pas me faire retirer la vésicule biliaire et tout. Et mes brûlures d'estomac se sont arrêtées le jour où j'ai quitté mon travail. Voilà, littéralement. Je suis passée de... si je mange quoi que ce soit de plus vinaigré, plus acide ou plus épicé qu'une tranche de pain, je vais pas dormir et vomir toute la nuit. Je suis en Espagne en train de manger du pan con tomate, donc du pain à la tomate arrosé d'une petite bière au tabasco sans problème. Voilà, n'hésitez pas à quitter vos emplois, ça va beaucoup mieux après. C'était plus psychosomatique que ce que je pensais. Et donc je pense que oui, il y avait de l'anxiété là-dedans. Et sinon, mais après oui, non, c'est compliqué à dire, tu vois, genre des fois j'ai mal au dos, des fois j'ai le bide en vrac, des fois j'ai du mal à dormir... Est-ce que c'est pire quand je suis stressée? Oui. Quand je suis anxieuse, oui. Mais j'ai pas... Genre, quand je fais des crises d'angoisse, c'est pas beaucoup de douleurs physiques. J'ai pas genre l'impression que je vais mourir, j'ai pas des symptômes de crise cardiaque ou quoi. C'est plus genre, ah, on va shut down et se mettre en boule dans un coin maintenant. D'accord. Donc, le conseil 1 était saisir ses émotions, même quand elles sont désagréables. Le conseil 2 est... Prenez des inspirations profondes. Bon, là, on commence à être sur du un peu basique, mais ok. Les exercices respiratoires peuvent vous aider à retrouver le calme, à endiguer vos émotions, à mieux vous contrôler et à mieux connecter votre esprit à votre corps. On ne peut gérer efficacement ces émotions que lorsqu'on est calme. Vous pourriez essayer l'exercice respiratoire suivant. Placez une main sur le ventre, comme la dame du dessin, et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 5. Vous devez sentir votre ventre se soulever alors que vous inspirez. Expirez par la bouche en comptant de nouveau jusqu'à 5. Vous devez sentir votre ventre redescendre alors que vous expirez. On va le faire tous ensemble, ok? On inspire en comptant jusqu'à 5 avec une main sur le ventre. On respire vraiment avec le ventre. Et ensuite, on expire en comptant jusqu'à 5, ok? 1, 2, 3. Bah, je pense que je suis tendue, parce que j'ai pas vraiment respiré avec le ventre. Mais je pense que c'est compliqué de faire ça en live, parce que genre forcément je suis un peu tendue, je suis en public, quoi, je suis en représentation. Et aussi je suis assise, et je crois que c'est mieux debout. Quoi. Je suis un peu genre, ouais, j'ai senti que mon corps était pas idéalement positionné pour cet exercice. Du coup voilà, j'espère que ça s'est mieux passé chez vous, n'hésitez pas à vous lever pour le faire, si ça n'a pas bien marché. Mais je sens, enfin il y a ce truc de... Il y a la vraie respiration profonde et il y a la respiration, on sent qu'on est encore crispé, quoi. Et là, j'ai senti que j'étais crispé, donc bravo WikiHow. J'ai dit que c'était un peu basique les exercices respiratoires parce que ça l'est, mais c'est pour ça que c'est bien. C'est qu'on peut les faire gratuitement n'importe où, que c'est pas très long, que c'est assez discret et que en vrai ça aide vraiment, sans forcément partir dans de l'hyperventilation et tout, juste se poser si on peut, idéalement dans un endroit un peu calme ou s'isoler avec des écouteurs, un bruit blanc ou quoi, et juste deux trois fois, ça calme. Ah, Mama Unicorn nous dit « Je suis tellement déconnectée de mon corps que ça vient de me foutre une angoisse de ressentir ma respiration. » C'est bien, ceux-là, ils vont découvrir des trucs genre « Ah, ça va pas très bien. Hein. » Et après, je suis là « Je suis pas psy, allez voir des psys. » Non, mais I get it, voilà, bah, je me suis rendu compte que je suis pas très détendue parce que j'ai pas vraiment respiré avec le ventre. Et en même temps, comme maintenant, je sais un peu mieux m'écouter, etc., je suis un peu lucide et genre, je communique mieux sur comment ça va. Et bah, tout à l'heure avec mon compagnon, on s'est fait un resto en tête à tête, ce qui est aussi l'occasion de parler un peu plus en profondeur de « Hey, comment ça va vraiment en ce moment ?» Et je lui dis « Bah honnêtement, je sais que je suis pas à 100% d'énergie, je reviens certes d'une semaine de vacances, mais c'était des vacances en famille, donc il y avait un enfant de 4 ans, il y avait 6 personnes dans un bungalow, il y avait un programme, voilà, c'était des, pour une personne comme moi qui suis hyper vigilante à comment vont les gens, des vacances avec 6 personnes, dont un enfant de 4 ans, c'est pas 100% reposant. Mais c'était quand même déjà très chill. Mais voilà, je savais que c'était pas les vacances dont moi, Mimi adulte, j'ai 100% besoin. Et j'ai bien évidemment, et bien heureusement, d'autres vacances qui arrivent. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, je sens que je suis pas à 100% de mon énergie, à 100% de positif, mais je sais un peu d'où ça vient, qui est en fait, je pense que j'ai besoin de vacances et je suis fatiguée, j'ai besoin de m'aérer la tête. On souffre un peu tous les deux de ce mal des indépendants qui est que ça s'arrête jamais vraiment et c'est compliqué de couper et de dire bah là j'arrête d'ouvrir mes mails parce qu'il peut toujours y avoir une mission, il peut toujours y avoir un truc qui tombe et tout. Donc je suis pas surprise, mais oui, faire un exercice de respiration et se rendre compte qu'on n'y arrive pas, c'est intéressant en termes de ah, je suis un peu tendue quoi. Et Pro ton livre nous dit « Le truc cool, c'est que ça peut aussi court-circuiter une crise de tétanie. Good to know chez vous. » Music is Life dit « J'ai fait au moins 3 échographies de la poitrine dans ma vie pour vérifier que tout allait bien. C'était des douleurs liées à la dépression, l'anxiété à chaque fois. » Ouais, bah, y a une personne, une jeune femme dont je suis très proche, que j'ai déjà accompagnée aux urgences une ou deux fois parce qu'elle avait des crises de tachycardie où donc son corps s'emballe de façon hyper vénère. En plus, c'est une meuf toute fine et tout, donc c'est impressionnant aussi de voir sa poitrine palpiter comme ça. Et puis, bah, elle était très angoissée. Et moi, j'étais là, on va aller aux urgences, en fait, hein, y a pas de doute, quoi. Et électrode, machin et tout, et à chaque fois, c'était... Y a rien, détendez-vous, prenez une tisane et de l'ophytose. Yes, l'ophytose, c'est un truc de plante. Je dis pas que ça marche pas, je dis qu'à ce niveau-là d'anxiété, t'es là... Peut-être un peu light, quoi, l'ophytose. Mais c'était aussi... Il y a un travail, comment dire, de traitement des symptômes, de voilà, de te calmer quand t'as l'anxiété qui monte, et un travail de fond qui se fait plutôt, je trouve, via la thérapie, de réduire l'intensité de l'anxiété, comprendre mieux d'où elle vient, et du coup être moins sujet, être moins victime, moins subir en fait cette anxiété. Et moi, je suis contente d'avoir un petit anxio pour quand vraiment ça va pas, mais je continue de travailler avec ma psy sur comment faire pour réduire les choses qui me... Alors, soit éviter les choses qui me créent de l'anxiété, mais ce qui demande par accepter que j'ai de l'anxiété et comprendre ce qui m'en provoque. Ou du coup, bah, je sais que, par exemple, je vais rarement aller à une soirée où je suis invitée, où je connais personne à part la personne qui m'invite. Parce qu'en fait, ça me crée de l'anxiété et que c'est pas vraiment important pour moi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc je suis là, pourquoi je ferais ça? Genre, j'ai pas besoin de nouvelles potes ou de nouveaux potes. Donc, pourquoi j'irais mettre dans une situation qui me génère de l'anxiété alors que je vais pas forcément retirer du positif? Mais ça peut être aussi mieux manager le niveau d'anxiété que les choses me provoquent, voire ne plus ressentir d'anxiété. Fut un temps, j'étais incapable de demander un renseignement dans un magasin. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est, alors peut-être pas un plaisir, mais qui est hey, ok, facile. Et ça va plus du tout m'entraver dans ma vie, ce côté, je sais pas si je peux faire cette activité, parce que peut-être faudra parler à un serveur, quoi. Ce qui est chiant. Voilà, y a beaucoup d'activités où il faut parler à au moins une personne inconnue de type employé, quoi. Ah, Proton Libre dit « À une époque, j'angoissais pour rien à propos de ma santé à tel point que mon médecin a fini par me dire « Encore vous !» Ouais, bah l'hypochondrie, c'est réel. Hein. Le flip de la santé, c'est réel. J'ai pas ça, moi. Je suis vraiment en mode « Ouais, je mourrai jamais, de toute façon. » Enfin non, mais je vis comme si je mourrais jamais. Donc, je suis pas stressée pour ma santé, peut-être pas assez. Hein. Clairement, bon, ça fume des clopes, quoi. Alright. On continue WikiHow. On est en train d'apprendre des trucs. Étape numéro 3, analysez votre sensation, tel ce bonhomme qui ressemble un peu à Hawkeye des Avengers. De quel endroit de votre corps provient cette sensation? Quelle est son intensité? Comment est votre respiration? Quelle est votre posture? Que ressentez-vous au niveau du visage? Cette sensation s'amplifie-t-elle ou s'atténue-t-elle? Essayez de sentir quelles parties de votre corps sont affectées par cette émotion. Affecte-t-elle votre rythme cardiaque, votre ventre, la température de votre corps, les extrémités de vos doigts ou de vos orteils, vos muscles ou votre peau? Bye bye Mr Pink. C'est intéressant, on en parlait, Valérie dans le chat demandait voilà, est-ce que ton anxiété te provoque des douleurs physiques? Bien sûr, les émotions provoquent des réactions physiques. Et c'est bien aussi de les identifier, je dirais, pour mieux comprendre c'est quoi l'émotion qui se passe. Et aussi, bah, pour savoir aussi, par exemple, je sais que quand je suis... Alors, je suis une personne qui sue vite. Ce qui est toujours un plaisir quand on fait des lives par 30 degrés, mais j'ai un ventilateur sur la gueule et de la poudre. Donc ça ne se voit pas que je suis moite. Et je sue beaucoup de la tête en plus. Donc c'est vraiment un endroit où c'est un plaisir de suer de la tête, car ça se voit très peu, bien sûr, en société. Et je sais que l'angoisse, bah, comme moi, je suis une personne humaine, hein, donc souvent l'angoisse fait suer. Et du coup, si je sais que je vais faire un truc, par exemple un truc pro qui nécessite de monter sur scène, bah, souvent ça me génère quand même un peu d'anxiété. Et du coup, bah, je vais réfléchir à qu'est-ce que je porte pour pas que ça se voit que je sue. Genre, je vais pas porter un truc trop près du corps, pas parce que je suis en mode j'ai pas envie d'être en chouin, car j'ai souvent très envie d'être en chouin, mais parce que je me dis je vais suer, attention, donc autant porter un truc un peu lâche ou un débardeur blanc, comme ça si je sue ça se voit pas. Donc voilà, c'est bien de savoir comment on réagit à certaines, à certains stimuli. Et fun fact, quand je suis stressée je bâille de fou. Je pense que c'est parce que le bâillement c'est apparemment un mécanisme de justement d'auto, de pour s'auto-calmer, le, en plus d'un truc de mimétisme, de quand on voit quelqu'un bâiller ou même un animal bâiller, on bâille aussi. Mais du coup, quand je suis stressée, on dirait vraiment que je me fais chier et que je suis à ça d'une sieste, alors que je vais être à 10 minutes de l'interview la plus importante de ma vie et je vais être en train de bâiller, à m'en décrocher la mâchoire, mais alors qu'à l'intérieur, j'ai envie de crever et absolument pas sommeil, quoi, et je serais incapable de m'endormir. Donc voilà, on a parfois des manifestations rigolotes, et en fait, si je savais pas que je fonctionne comme ça, je pourrais me dire, bah, je suis pas stressée, je bâille. Donc ça doit pas être du stress qui se passe, j'ai juste envie de ronger la table pour aucune raison. Maintenant, je sais que, ah, je bâille fort, donc je dois être vraiment très stressée. Ou fatiguée, mais généralement je sais si j'ai un événement qui arrive qui me stresse ou pas quoi. Ah, Jimmy nous dit, je trouve ça difficile de faire la part entre prendre soin de soi et ce qui relève de l'évitement. Je me force tout le temps parce que je pense que c'est l'anxiété et quand je me repose, je culpabilise. Et Valérie répond, ah, il finit aussi fort, je rêve de me reposer plus souvent de manière vraiment chill et sereine, mais mon anxiété vient me chatouiller. Bah, je comprends que t'as pas envie de laisser ton anxiété t'empêcher de vivre et du coup, bah, que tu vas peut-être te dire, je vais aller à cette soirée, même si je connais personne, parce que ça va être cool. Et, mais je pense juste qu'il faut choisir ses combats, quoi. On n'est pas, on est aussi genre tous et toutes différents. Et en fait, moi, je peux passer un an sans boire un coup avec une nouvelle personne. Genre, juste je vois mes potes que je connais déjà, et mon mec, et ma famille, et je crois pas que je serais malheureuse. Ça veut pas dire, enfin, évidemment que chaque nouvelle personne est potentiellement une super rencontre, mais j'ai pas besoin de ce truc de renouveler mon entourage, de papillon social et tout dans ma vie. Donc pourquoi je me forcerais à faire un truc? C'est un peu comme me dire je vais me forcer. Par exemple, j'ai le vertige, j'ai peur. Je fais pas d'acrobranche parce que j'ai hyper peur. J'ai le vertige, j'aime pas sauter dans le vide et tout. Bah, je pourrais me dire je devrais pas laisser la peur me limiter. Je vais le faire et tout. Je l'ai fait une fois pour voir. Effectivement, j'étais là, j'ai envie de crever. Bah, en fait, je vais pas retourner à l'acrobranche jusqu'à ce que ça me plaise, juste pour dire ouais, j'ai surmonté mon émotion. Non, mon émotion, elle me dit un truc. Elle me dit t'as peur et t'as pas envie de faire ça. Bon bah du coup, je fais pas ça parce que quand je le fais, c'est pas agréable, quoi. Mais je suis d'accord que c'est bien d'essayer, mais du coup, mais c'est, en fait, c'est aussi du self-care de dire, je pense que ce truc va pas me faire du bien et du coup, je vais pas le faire. C'est aussi juste se faire un cadeau à soi, quoi. Et, alors, je suis une spécialiste de annuler des trucs et genre, samedi, je devais faire deux trucs et les deux, alors, moi, j'ai pas de problème à annuler des trucs. Et du coup, j'en veux très peu aux gens qui annulent des trucs parce qu'en plus, souvent, je suis là, yes. Et samedi, je devais voir un pote l'après-midi et voir une copine le soir. En plus, je me suis réveillée hier, là. Donc là, aujourd'hui, il fait 30 degrés, hyper chaud. Mais hier, toute la matinée, il pleuvait à Paris. Donc le soleil n'est arrivé qu'après. Et du coup, j'étais là avec mon petit café. Il pleuvait dehors. Coup sur coup, j'ai mon pote qui m'a dit « je suis malade » et ma pote qui m'a dit « j'ai la crève ». J'étais là « bang, bang, yeah !» Tellement contente de plus avoir d'obligations sociales et de pas sortir dehors et de jouer à Baldur's Gate toute la journée. Et je pourrais me dire « bah oui, mais c'est un peu écouter ton anxiété sociale et ton côté ours de faire ça et tout ». Ouais, mais c'est pas grave, en fait, parce que je suis une ours et je suis une personne qui... à qui ça demande de l'énergie de socialiser. C'est pas grave, c'est pas forcément quelque chose que je veux changer. Du coup, c'est ok d'adapter ma vie à ça. Et je suis pas sûre que je suis obligée de me forcer à faire des trucs qui me tentent pas parce que peut-être ça va être cool.
Parce qu'à ce moment-là, je peux faire plein de trucs parce que peut-être ça va être cool, mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie, non. I don't know. Ça demande de bien identifier ses besoins et de mettre de l'énergie juste dedans. C'est pas une science exacte, hein, bien sûr, ça m'arrive de refuser ou d'annuler des trucs et me dire après, ah, en vrai, j'ai le seum, genre, c'est un peu l'anxiété qui parle là-dedans, j'aurais dû y aller. Et ça m'arrive de, d'accepter des trucs en me disant non, non, mais ça va être cool, et puis j'y vais, et je suis là, oh là, non, je me suis vraiment forcée pour les mauvaises raisons, je n'ai pas envie d'être là. Eh, je ne prétends pas avoir la science infuse. Je vois qu'on est plusieurs à avoir le stress bâillement, je suis contente, on est ensemble. Étape 4 sur WikiHow. Mettez un nom sur votre émotion. Quel mot pourrait le mieux la décrire ? Est-ce de la colère, de la culpabilité, de l'angoisse, de la tristesse ou de la peur ? Par exemple, la colère fait naître une sensation de chaleur, accélère le rythme cardiaque, entre autres effets. L'angoisse peut donner le souffle court, augmenter le rythme cardiaque, accentuer la sudation au niveau des mains et des pieds et créer une sensation de pression au niveau de la poitrine ou faire bâiller. Il est tout à fait... Non, c'est moi qui l'ai rajouté. Il est tout à fait possible de ressentir plusieurs émotions en même temps. La vie est une fête. Essayez de séparer, de bien identifier toutes les émotions qui se mélangent en vous. Très bien. On sépare, on identifie et après on en fait quoi ? Parce que on est surgéré. Ah ! Crushtat nous partage une émotion positive. Merci à lui. La satisfaction de ce premier gazpacho maison qui régale. Bravo, bon appétit. Je suis ravie que tu te sois fait la popote car je suis team popote, comme tu le sais, et team légumes. Et merci à ce bon JR qui t'a offert sa recette familial de gazpacho.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Est-ce que t'es une... Alors, sur le chat, Léa me demande, est-ce que t'es une introvertie qui recharge ses batteries solo et non pas en socialisant ? Alors oui, donc déjà, j'ai besoin de temps solo pour recharger effectivement mon énergie, mais je suis aussi une personne qui fait de l'anxiété sociale. Et c'est pas pareil, tu peux être introvertie et pas être anxieuse à l'idée de passer du temps avec des gens ou de rencontrer des nouvelles personnes, juste tu sais que t'auras besoin d'être solo un moment pour te reposer. Moi j'ai les deux, c'est-à-dire j'ai besoin d'être solo pour me reposer, y compris des gens que j'aime et avec qui pour le coup je suis très à l'aise. Je peux pas avoir mes potes tous les jours, quoi. Je suis là, laissez-moi ne parler à personne pendant 3 jours. Mais je fais aussi de l'anxiété où il y a pas mal de situations sociales et rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ça va me générer du stress. Donc il y a voilà, il y a les deux. Double plaisir. WikiHow, étape 5. Ne niez pas vos émotions. Laissez-les vous traverser sans résister, sans porter de jugement, sans chercher à les réprimer. Acceptez-les car ce sont des réactions normales de votre corps. Si vous constatez que vous portez un jugement négatif sur vous-même, au moment où vous êtes traversé par une émotion, notez cette réaction, puis concentrez-vous de nouveau sur les sensations physiques que vous éprouvez. Oui, on ne se flagelle pas, on n'est pas là en mode « je suis nulle, je ne veux pas avoir cette émotion, il faut la supprimer ». Elle est là, deal with it. Et ça ne sert à rien de se flageller. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick. WikiHow nous dit « Parfois, cela peut suffire à vous donner le pouvoir sur certaines de vos émotions. Ignorer une émotion, chercher à l'éviter ou à la réprimer demande un très gros effort mental. Cette attitude peut être contre-productive puisqu'elle peut prolonger et renforcer l'émotion. En acceptant vos émotions sans peur, vous allez libérer votre esprit de lutte interne qui vous empêche de vous concentrer sur les situations qui génèrent ces émotions. » C'est pas mal, hein, ces conseils WikiHow, parce que du coup, là, non seulement nommer ses émotions et les accepter, c'est utile et c'est une étape indispensable pour les gérer, mais en plus, ça peut suffire, entre guillemets, parfois, de dire « Ah, tiens, ah bah je suis vénère. Ok, c'est là, j'ai analysé la sensation, le machin, bah je suis vénère, je fais un peu d'exercice respiratoire, j'essaye de comprendre pourquoi je suis vénère, et voilà, et du coup, je suis plus vénère. » Et franchement, des fois, ça marche, c'est possible. Bien le nez dans votre caca avec cette histoire de WikiHow. Ok, partie 2, analyser ses émotions. Écrivez pendant 15 minutes sur ce que vous ressentez ou faites-en un live tweet de 2h27. Décrivez la situation qui est à l'origine de l'émotion. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a été dit ? Qui l'a dit ? Qu'est-ce qui a donné de l'importance à ce qui s'est passé ? Identifiez et nommez vos sensations sans vous censurer, sans vous soucier de l'orthographe, de la grammaire ou du style. Écrivez tout. Alors ça marche, je connais aussi des gens qui le font en audio, ça peut être en dessinant, etc. Mais voilà, l'idée c'est d'identifier, de rétro-engineer, ok, émotion, colère... Qu'est-ce qui a généré cette colère ? Quand est-ce qu'elle a pointé ? Et c'était quoi le contexte ? Qu'est-ce qui m'a mise en colère pour comprendre mieux ce qui s'est passé ? Étape 2. Essayez d'identifier des pensées négatives et des schémas mentaux. Certaines personnes prennent l'habitude de percevoir trop souvent les choses de manière négative en pensant qu'il s'agit de la réalité. On en parlait. Comment savoir si c'est le seum qui parle et mon propre prisme pessimiste ou vraiment si c'est la hesse? Essayez de voir combien ce que vous avez écrit est basé sur des faits ou combien cela ne correspond qu'à votre point de vue. Les thérapies comportementales et cognitives, qui sont un type de thérapie dont on parlait tout à l'heure, les TCC comme on dit, sont basées sur le principe que notre façon de penser et notre vision du monde créent notre façon de ressentir les choses et nos émotions. Cet exercice mental vous aidera à gérer vos pensées pour mieux contrôler vos émotions. Il est plus facile de détecter certaines pensées erronées quand on peut les lire après les avoir couchées sur le papier. Exemple, je suis en colère parce que une amie m'a mal parlé. Je note ça, je dis voilà, une amie m'a dit ça, ça m'a mis en colère, j'ai ressenti que j'avais chaud aux mains et envie de casser mon verre Duralex. C'est pas pareil que de noter cette amie m'a dit ça avec de façon condescendante. Ça, là, c'est le moment de se dire est-ce que c'était condescendant? Est-ce que c'est moi qui l'ai interprété comme ça? Si c'était condescendant, c'est possible, parfois les gens le sont. Qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est bien de prendre ce recul de qu'est-ce qui vient de moi dans cette émotion et qu'est-ce qui est la responsabilité des autres. Et là, j'en arrive à un outil pratique très très utile que je dois à Fabrice Florent, toujours de bons conseils, le concept de rester à son bout. Pour une personne comme moi, qui est une hypervigilance aux émotions des autres, ça s'accompagne d'une genre d'hyper-responsabilité de les émotions de tout le monde sont mon problème, alors que non, la plupart ne me regardent pas et je ne peux rien y faire, donc pourquoi passer mon temps à m'en préoccuper? Il y a un juste milieu, bien sûr, je n'ai pas envie de devenir une personne qui s'en fout des émotions des autres, au contraire, je suis plutôt un petit sucre, en tout cas j'essaye de l'être. Mais il y a beaucoup de ça prend beaucoup de place dans ma tête, les émotions des autres, et je trouve qu'on s'empêche souvent beaucoup de dire et d'agir parce qu'on sur-prévoit la réaction de l'autre. Typiquement, disons que on devait hier je dois aller au cinéma avec une amie. À 19h et à 13h, je me rends compte que j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas d'excuses, j'ai juste pas envie. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas l'énergie, j'ai envie de rester chez moi et de voir personne. Je peux me dire, ouais, mais si je lui dis ça, elle va vraiment croire que genre j'ai pas envie de la voir, elle va le prendre en perso, elle va m'en vouloir, et du coup après ce sera bizarre, et peut-être la prochaine fois qu'on se verra, je saurai pas si elle m'en veut ou pas. Puis je sais que c'est une meuf qui a du mal à dire ce qu'elle pense, donc elle va me dire que tout va bien, mais en fait ça ira pas bien et tout machin. Et du coup ne pas lui dire et me forcer et pas passer un moment de ouf, et peut-être qu'elle va sentir que je passe pas un moment de ouf et elle se dira merde, cette activité n'est pas cool, je suis vraiment une mauvaise amie d'avoir proposé un ciné à Mimi alors que c'est juste moi qui me suis forcée à venir alors que j'avais pas envie. Ou je peux lui dire écoute, je me sens pas d'aller au ciné, j'ai plus l'énergie, peut-on reprogrammer? Ce à quoi elle risque de répondre bien sûr pas de souci, prends soin de toi, voire ah cool, moi aussi j'avais la flemme, j'osais pas te le dire, ça me ravit. Donc le concept de rester à son bout, c'est que si on voit Aruma, tu es là dans le chat, je le vois. Si on voit chaque interaction, chaque communication comme une écharpe où chacun tient un bout, l'idée est de rester. Donc imaginez que moi je tiens un bout de l'écharpe et ma pote en face tient un autre bout. L'idée est de rester à son bout, de ne pas dépasser la moitié de l'écharpe, quoi. Son bout, c'est qu'est-ce que je ressens et comment je le communique. Le bout de l'autre, c'est comment il l'entend et qu'est-ce qui fait des émotions que ça lui provoque. C'est pas votre responsabilité, le bout de l'autre. C'est quelque chose avec lequel vous allez devoir faire. Mais c'est pas vous qui décidez et c'est pas, ça ne devrait pas vous empêcher de dire ce que vous ressentez. Peut-être que ça peut vous porter à réfléchir à comment vous le dites. Si c'est quelqu'un où vous savez que cette personne elle est fragile sur la confiance en elle, bah mettez les formes, tu vois, je sais pas, on n'est pas des bêtes. Mais à trop être au bout des autres, et ben on se perd et on n'est pas honnête en plus et on n'est pas honnête avec soi-même ni avec les autres. Et ça ne fait pas du bien. Du coup, des fois rester à son bout c'est bien, c'est souvent bien. Aruma dit « Il faut normaliser le fait de pas avoir envie sans que ça blesse, voire que l'on n'ait plus envie de côtoyer une personne, mais ça c'est complicado. » Oui, c'est, là je parle juste d'annuler un signe et pas de dire à la personne « Je ne veux plus traîner avec toi. » Et en même temps, si demain j'ai une amie qui ne trouve plus d'intérêt à notre amitié, je préférais qu'elle me dise « Écoute, je ne sens plus d'atome crochu entre nous, je pense que cette relation ne va nulle part, je préférais me faire larguer que me faire ghoster. » Parce que c'est prendre soin des autres que de leur communiquer ce qu'on ressent. Je pense. C'est déjà leur faire un beau cadeau, parce que c'est dur à dire ces émotions, hein, on en parle. Et c'est leur dire, voilà qui je suis, voilà comment ça peut se passer entre nous, bien. Voilà de quoi j'ai besoin pour que ça se passe bien. Tu as donc les clés, les outils, et t'as pas à fucking deviner la notice, parce que, comme on l'a dit, gérer les émotions des autres à leur place, c'est fatigant. Bisous Manon, qui est partie dodo. Donc, c'est pas trop mal, hein, pour l'instant, ce WikiHow. On continue avec écrivez toujours. Là, il y a du travail à faire. Pourquoi ça marche plus ? Si, c'est bon. Écrivez une réponse comme celle que vous écririez à un ami. Nous avons souvent tendance à porter des jugements plus durs sur nous-mêmes que sur les personnes que nous aimons. Soyez indulgents envers vous-même et analysez rationnellement ce que vous avez écrit à propos de vos émotions. Prenez en compte les faits et donnez-vous de bons conseils. Si vous avez du mal à écrire, enregistrez-vous en audio pendant que vous exprimez vos émotions. Dès que vous avez fini, écoutez ce que vous avez enregistré. Essayez de déceler les propos non constructifs. Répétez l'ensemble de ce processus jusqu'à 3 fois. Oui, bon, après, on n'a pas tous une demi-journée à consacrer à chaque émotion, mais c'est important de prendre ce temps. Et j'aime bien ce truc de écrivez comme vous écrivez un ami. C'est un conseil que je donne beaucoup et qu'on donnait beaucoup sur Mademoiselle. Traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie. On est souvent beaucoup plus dur avec soi qu'on l'est avec les autres. Et typiquement, on va se détester d'annuler un ciné alors qu'on ne détesterait pas une amie qui annule un ciné. Et peut-être même on serait fiers d'elle parce qu'on serait là « good for her », elle ne le sentait pas, elle a dit non. Peut-être même qu'on se dira « putain, j'aimerais bien savoir faire ça ». Donc se parler et se traiter comme on traite les gens qu'on aime. Voilà, sa meilleure amie, ça peut être qui vous voulez. C'est plutôt pas mal. Se dire « ok, si quelqu'un d'autre me disait ce que je suis en train de me dire à moi que je ressens, est-ce que je lui dirais « ah, t'es la pire personne ?» Probablement pas. Du coup, pourquoi se le faire à soi-même ? M'écouter, c'est l'angoisse. I know, Jimmy, I know. Mais tu ne peux pas battre ce que tu ne regardes pas en face. Ouvre les deux yeux, comme dans Pocahontas. Les mots de certaines personnes dans le chat m'ont fait un bien fou, m'ont rassuré, et tes mots à toi aussi, mais trop bien ! Je viens de prendre rendez-vous avec la psy que je n'avais pas vue depuis 1 an, et mon ostéo, mais ça n'a rien à voir avec le live. Écoute, déjà bravo, welcome back en thérapie, j'espère que ça se passera bien, que ça t'apportera ce que tu en attends en tout cas. Et bah écoute, l'ostéo, c'est aussi du self-care, hein, finalement, c'est prendre soin de toi, et on parlait de ce que peut générer physiquement le stress, l'anxiété, les émotions négatives ou positives, ça je rentre aussi dedans. On en a plein le dos à tous les niveaux. Donc bonne ostéo et bonne thérapie et merci beaucoup d'être là et merci sur le chat d'être super cool. C'est vrai que je l'ai pas dit tellement ça devient évident dans cette commu, mais ça l'est pas sur internet. C'est vraiment chouette de pouvoir parler de sujets intimes et vulnérables sur cette chaîne et de savoir que le chat va être au top et que vous allez être cool et qu'il n'y a personne pour venir dire si vous êtes des fragiles, vous avez qu'à aller taper dans des sacs et lever de la fonte et manger des œufs. Vous êtes les bestes. On avait dit quoi ? La famille Milly ? On était là-dessus ou pas ? La famille Milia ? La Mimif. Je crois qu'on avait tranché pour la Mimif. Vous aimez bien ? Moi, j'aime bien. Ok, après, il faut relire sa réponse. Bon, je vous le fais un peu en speedrun parce que sinon, on est encore sur WikiHow pendant 4 heures. Là. C'est très long, on n'est même pas à la moitié. Ensuite, il faut analyser ses émotions avec quelqu'un en qui l'on a confiance. Une personne que vous appréciez particulièrement, en qui vous avez confiance et avec qui vous aimez parler. Vous devez pouvoir parler, oui, bon, blablabla. Demandez-lui si le moment est opportun pour engager une conversation. Bon conseil. Arriver en random à une personne, surtout si vous faites ça en démat, donc en numérique, n'est-ce pas si vous arrivez dans les DM de quelqu'un en lui balançant vos tripes, alors parfois on peut et on n'a pas le choix et du coup faites-le, tu vois, c'est toujours mieux que de ne rien dire. Mais c'est bien de demander si la personne a un peu de temps pour à vous accorder et un peu d'énergie parce que c'est déjà dur de dire ses émotions, mais si on les dit et qu'en face la personne, bah, elle est en train de taffer, elle est busy, elle a un gamin sur les bras, elle est pas du tout dispo. Déjà, on peut se dire, voilà, j'ai fait l'effort pour rien, j'ai pas l'énergie de le refaire. Et même on peut se dire, bah voilà, elle m'écoute pas, je suis pas intéressante, j'aurais pas dû en parler et tout, alors que non, c'est juste, frère, les gens ont une vie. Et c'est important de respecter ça. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, les thérapeutes, parce que c'est littéralement leur métier. Et... Parlez de vos émotions à cette personne. On salue que l'image montre a priori 2 hommes en train de se parler de leurs émotions. C'est le changement qu'on va voir dans le monde. On adore. Expliquez-lui ce qui a fait naître vos émotions, pourquoi ces émotions vous posent problème, exprimez tout ce qui peut être pesant pour vous, dire simplement les choses devrait avoir un effet cathartique. C'est vrai. Déjà, dire les choses ou les écrire, si jamais on n'arrive pas à les dire, c'est bien parce que déjà, ça les rend réels et ça les normalise. C'est genre, vous allez dire à quelqu'un ce qu'il y a dans votre cœur et a priori, la personne va pas péter un câble, elle va juste faire « ok, on va voir ensemble si on peut t'aider » et c'est cool. WikiHow nous dit ensuite « Demandez à cette personne de confiance son opinion sur ce qui vous tourmente. Elle pourrait vous raconter ses propres expériences, ce qui vous montrerait que vous n'êtes pas seul. Cela pourrait aussi vous permettre de voir les choses sous un autre angle. » Tout à fait. Ensuite, il faut traiter le problème à la racine. Apprenez à gérer vos pensées négatives. Là, on arrive dans le dur. Faites l'inventaire des émotions qui vous posent problème. Maintenant que vous les avez analysées et que vous avez appris à voir la situation sous un autre angle, grâce aux étapes précédentes, n'est-ce pas ? Demandez-vous s'il n'y a pas d'autre façon d'interpréter ce que vous vivez. Vos émotions ont-elles évolué depuis que vous les analysez ? En effet, nos émotions changent au fur et à mesure que nos pensées évoluent avec la réflexion. Tout à fait. Si ma colère envers mon mec qui voit une meuf en tête-à-tête vient de « j'ai peur de ne pas être assez bien pour lui » et que, via des discussions avec lui, avec des proches, etc., je suis rassurée là-dessus, je ne ressentirai plus cette colère. Donc, we good. Émotion donne. Envisagez des actions pour faire évoluer votre situation. Avec une illustration qui dit « arrêtez de fumer, arrêtez de boire, perdre du poids, trouver un job permanent, retourner à l'école, payer ses dettes. » Vraiment, les États-Unis, c'est un pays qui va mal. Mais donc, WikiHow nous conseille « envisagez des actions pour faire évoluer votre situation, seul ou avec l'aide d'un proche, très important. Faites une liste des actions qui pourraient changer votre vie, considérez toutes les conséquences qu'elles pourraient avoir et les efforts que leur mise en œuvre nécessiterait. » Oui, il y a un truc où... parfois, je pense, il faut envoyer chier sa vie pour être heureux. Un peu. Il faut en tout cas envoyer chier une partie de ses certitudes et de sa stabilité. Ça peut être quitter son taf, ça peut être quitter son partenaire, ça peut être se mettre en couple avec quelqu'un alors que c'est pas notre truc, ça peut être dire à ses parents « En fait, fuck you, je vais pas venir vous voir tous les week-ends parce que j'ai autre chose à foutre de ma vie, merci ». Ça peut être dire non, je ne partirai pas à Noël avec mon ex juste parce qu'on a un enfant ensemble. On va parce que ça me fait pas du bien. On va juste trouver une façon différente, même si ça se fait pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être arrêter ses études, reprendre des études, se reconvertir. Ça peut être plein de choses. Ou vivre une vie un peu différente. Moi, par exemple, je pense sincèrement, on a beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est aussi dispo en podcast si vous voulez. Je pense sincèrement que je pourrais pas vivre une vie épanouie si je suis pas en relation libre. Et ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai été élevée comme tout le monde dans le couple exclusif et l'idée d'une monogamie assez évidente. Et ça a été du coup, c'est choisir un gros changement dans ma vie et c'est choisir une vie atypique que de suivre ce besoin. Je pourrais me dire, bah vas-y, je vais pas en faire un... Je pourrais décider que c'est pas une condition à mon bonheur et tout, mais la vérité c'est que je peux pas vraiment le décider. Et c'est important de se projeter dans, en fait, il y a beaucoup de changements qui sont possibles. Je suis pas en mode quand on veut, on peut. Je suis pas trop en mode des changements de type quitte ton taf, dis fuck you à ton boss et tout, parce que là pour le coup on est dans des situations un peu compliquées car on vit dans un monde capitaliste. Mais par exemple, je parlais avec une personne qui m'a dit qui est dans un couple relativement normal et qui, à force de discuter, s'est rendu compte que probablement que son idéal ce serait un monde où il est en couple avec personne. Et oui, il vit des trucs avec des gens. Il n'y a pas de couple défini, quoi. Et c'est pas non plus une relation libre ou du polyamour qui est plutôt genre être en couple avec une personne et coucher ailleurs ou être en couple avec plusieurs personnes. Et là, I don't want to be en couple. Je veux juste vivre des trucs avec des gens et pas trop mettre d'étiquette dessus. Mais d'un côté, ça fait peur parce que il faut trouver les gens qui veulent bien ça. Il n'y en a pas un milliard. Ça veut dire que si t'aimes bien une personne et qu'elle veut pas de ça et qu'elle veut être en couple, c'est ciao. Donc potentiellement la personne avec qui cette personne sort actuellement. Et du coup, cette personne est dans cette phase de « j'ai l'impression que c'est ça ma vision de la vie », en tout cas sur l'aspect sentimental romantique. Et moi, ma take, c'est « tu devrais au moins essayer ». Tu devrais au moins essayer de vivre cette vie et voir si ça marche. D'essayer de trouver des gens qui sont OK avec ça et tout, plutôt que d'être dans un couple qui n'est pas le format de relation que tu souhaites vraiment. Et du coup, je pense que cette personne est dans des réflexions autour de ça. Je ne dis pas que cette personne va le faire ou pas, mais est dans des réflexions de... Au moins, je lui ai dit, c'est possible. Tu peux réfléchir à faire de ce truc un truc possible, plutôt que de juste passer ta vie à te dire, ce serait bien. Et la personne m'a dit, mais j'aimerais bien que tout le monde fonctionne comme ça serait simple. Et je suis, je sais, mais bon, c'est pas encore le cas. Mais guess what, si tous les gens qui aimeraient bien ça, vivent dans des couples traditionnels parce qu'ils pensent qu'ils trouveront personne qui aime bien ça aussi, personne vit comme ça et vous êtes peut-être plein potentiellement. Trouvez-vous, voilà. Donc je trouve que c'est bien ce conseil d'envisager des actions concrètes pour faire évoluer votre situation. Voilà. Je vous lis un petit peu. Et Laure nous dit « Ça peut être accepté qu'on n'est pas la personne idéale qu'on aimerait. » Tout à fait. J'avais hyper peur du regard de mon mec, qui est pourtant une personne qui ne me jugerait pas, sur le fait que j'avais besoin de surorganiser ma vie et mes activités pour être heureuse et savoir où je vais. J'avais peur d'être creepy, mais ça me rendait pas heureuse. Oui, je comprends, c'est aussi être aimé comme on est. C'est vraiment genre une sensation tip top. Et je suis un peu comme toi, j'anticipe et j'organise beaucoup. Et genre, j'ai un week-end que je suis en train d'organiser, c'est vraiment deux jours, fin septembre, avec des potes, on loue une bagnole, c'est rien de compliqué. Je suis déjà à peu près sûre de ce qu'on va manger, quoi, parce que I am zinzin. Mais au lieu de le cacher à mon mec et de faire genre je suis une cool girl détendue, il sait que je suis zinzin. Et des fois, genre on est dans le métro et je lui dis, tu sais que là, je suis en train de penser au fait que dimanche de la semaine prochaine, je voudrais faire des burgers et du coup, je sais déjà quand je vais faire les courses. Et il est là, girl, I do not get it. Je suis là, I know, c'est comme ça que mon cerveau, il marche. C'est cool de pouvoir être soi-même. C'est chouette. Et tant pis si on est un peu zinzou. Ah, Music is Life nous dit, je suis un peu dans ce modèle du coup de non-couple. Je n'ai jamais été en couple à 27 ans. Je pense fondamentalement que le couple n'est pas fait pour moi. C'est très compliqué à faire comprendre au monde de manière générale. I get it, Music is Life. Oui, le couple est encore sacralisé hein, comme une condition sine qua non au bonheur. À la limite, on est en train de sortir un peu du couple hétéro-monogame traditionnel comme condition au bonheur. Mais l'importance d'être en couple est toujours un peu surreprésentée, je dirais, dans la société. Donc force, on est ensemble et puis fuck it les gens de ton entourage qui veulent t'expliquer qu'est-ce qui te rend toi-même heureux ou heureuse, hein. C'est pas eux qui vont vivre avec à la fin, donc on s'en fout. Ok, donc WikiHow nous disait envisager des actions et ensuite WikiHow nous dit agissez, sortez-vous les doigts du cul. Bah c'est vrai, il faut. Faites ce qui vous semble être nécessaire pour changer votre situation. Si vous êtes responsable de ce que vous vivez, soyez honnête en le reconnaissant. Pardonnez-vous les erreurs que vous avez faites, après avoir pris la décision de corriger ce qui en est à l'origine. Si vous souhaitez réellement vous débarrasser de certaines émotions, il est important d'avoir le sentiment d'avoir fait le maximum pour changer votre situation. Et oui, sinon on tourne en rond en mode « Ah bah c'est nul, mais bon je fais rien pour le changer parce que je suis qu'une merde, donc c'est nul, mais bon je mérite pas d'être heureuse vu que je suis qu'une merde, donc je suis qu'une merde, donc c'est nul, ah ah ah. » Et après c'est pas ouf, quoi. On se dira pas sur notre lit de mort « Ah j'ai bien fait de me dire que j'étais qu'une merde et de rien changer à la situation qui me rendait malheureuse. » Je pense pas. WikiHow dit « Fermez ce chapitre de votre vie ». Ah bon ? Si toutes vos tentatives pour vous libérer de certaines émotions s'avèrent inefficaces parce que, par exemple, vous n'avez pas pu estomper des malentendus avec une autre personne, pensez à vous, soyez suffisamment fort pour prendre la décision d'aller de l'avant. Ah, c'est le lâcher-prise. Lâcher-prise sur ce qu'on ne peut plus contrôler et dire « Ok, on ne peut plus rien y faire. Peut-être qu'on arrête d'être vénère à ce sujet du coup. Peut-être qu'on arrête d'être triste. Peut-être que juste on est là. C'est là. C'était plutôt nul. La vie continue. Let's go !» Tirez des leçons de vos erreurs, de cette épreuve. Convainquez-vous que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour résoudre ce problème et que vous avez appris beaucoup de choses grâce à la démarche. C'est vrai, rien qu'en essayant, on apprend, même si on conclut qu'on ne peut pas régler ce problème. Eh bien, c'est pas grave. Ah, WikiHow nous dit, et c'est le dernier conseil. Après, il y a une vidéo tendance qui a l'air d'être une recette de nuggets. Je comprends pas le lien. WikiHow nous dit, parler avec un psychothérapeute, il est parfois très difficile de savoir ce qui est à l'origine de certaines émotions. Un thérapeute vous apporte un regard extérieur objectif et peut vous aider à découvrir la source d'une émotion qui vous pose problème et vous aider à la gérer plus efficacement. Ah, et après il y a un petit lien vers un annuaire de psy en ligne. Et WikiHow qui nous dit, c'est une erreur de penser que seuls d'énormes problèmes peuvent justifier l'aide d'un psy. En fait, ces professionnels peuvent vous aider à identifier certains de vos schémas mentaux et de vos comportements qui vous desservent. Et vous apprendre à réagir différemment pour une vie plus stable sur le plan émotionnel. Mais écoutez, en vrai, c'est une bonne page WikiHow. Je pense qu'il n'y a pas énormément de conneries dans ce qui a été dit. Je ne suis pas spécialiste de... Je ne suis pas professionnelle de santé, tout comme cette personne, mais on est plutôt sur des conseils de bon sens, qui vont dans le sens de ce que moi j'ai constaté et appris dans mes années de thérapie, bien sûr. Et c'est cool de rappeler à la fin qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce qu'on identifie comme des très gros problèmes pour aller voir un ou une professionnelle de la santé mentale. C'est tout simplement pour comprendre comment on marche. C'est, voyez ça comme quand vous avez un petit symptôme d'allergie. Vous pouvez attendre d'avoir une allergie généralisée et envie de crever, voire crever, ou vous pouvez aller faire un test chez l'allergologue et comme ça vous savez, tiens, je réagis fort à ça, je suis un peu allergique à ça, je suis un peu sensible à ça. Et vous vivez votre vie en fonction, et vous le savez. Donc au lieu de vous taper des crises d'asthme dès qu'il y a le pollen, et ben vous pouvez faire en sorte d'y être un peu moins exposé, ou de mieux le gérer grâce à des médicaments, etc. Et ben c'est pareil. Aller voir un psy, c'est apprendre comment vous fonctionnez, et adapter votre vie en fonction pour être plus dans le kiff. Et c'est ça qu'on veut finalement. Ok, merci d'avoir été là, je vous embrasse. Et surtout, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.